Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi et le dimanche de 9h à midi. Si vous avez manqué la première heure d'émission, vous pourrez tout à l'heure cet après-midi tranquillement vous précipiter sur le podcast. On a parlé de Yannick Sinner et forcément, il y a des explications, il y a du débat. C'est un peu chaud dans le studio RMC, Yannick Sinner, avec cette décision de l'AMA qui réclame 1 à 2 ans de suspension pour le numéro 1 mondial. Toujours avec Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Fred Weiss, l'UBB qui a donc décidé de faire tourner pour le choc ce soir face au Stade Toulousain. Est-ce une honte pour le top 14? C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. Roberto De Zerbi fait corps avec Mehdi Benassia, l'entraîneur soutient totalement le conseiller sportif après la polémique, vous le savez, sur l'arbitrage. Cette séquence va-t-elle servir ou desservir l'OM? On en parle à 10h30, 10h45. Les GG contre-attaque. Les grandes gueules, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Et vous, chers auditeurs, vous, vous votez pour votre débat préféré. Le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 10h45. Christophe Cessieux, la contre-attaque du jour.
Moi, j'ai envie de rêver ce matin. J'ai envie de rêver. Un peu comme quand on achète un ticket d'euro-million. Tu sais, on rêve toute la journée. Bah, moi, je rêve ce soir de voir Julien en arc-en-ciel pour la troisième fois de sa carrière. Ouais, je rêve. Alors, c'est peut-être un peu. Sans espoir. Bah
c'est comme l'euro-million.
Mais voilà, c'est comme l'euro-million. Alors du coup, je vais faire comme à l'euro-million, je vais pas regarder la course. Comme ça, peut-être je vais continuer à rêver demain et après-demain.
Et comme ça, tu vas ouvrir le journal
exactement.
Demain.
Ah, génial,
les gens du monde. J'ai gagné les trois télés. Super. La proposition de Christophe Cessieux, le rêve. Julien Alaphilippe.
J'ai voté pour Cessieux, moi.
Il vote pour Christophe Cessieux. Un homme de rêve, évidemment. Fred Weiss.
Alors, moi, je suis plutôt un nostalgique. Je vois que le basket français va très bien. On a de plus en plus de joueurs qui évoluent en NBA, des numéros 1 de la draft, ça se passe super bien, sauf que nos légendes, nos anciennes légendes de Colo, Batum, Collet, ont annoncé qu'ils arrêtaient leur carrière internationale et j'ai l'impression qu'une page se tourne dans le basket français.
Ça me fait vieillir aussi.
Ça me fait vieillir, ça m'attriste un petit peu, c'est des légendes, ils ont apporté
mais les
beaucoup.
Tiens, ils ont arrêté depuis un moment quand même, les mecs de ta génération.
Ah ben, depuis très longtemps même.
Tu serais pas en train de nous proposer encore un débat basket?
C'est-à-dire que je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment parce qu'on parle de vélo beaucoup apparemment,
tu vois,
on parle de tennis beaucoup.
Tu vois,
de foot, évidemment.
Tu vois, ma passion, c'est le golf et j'embête personne avec ça.
Eh bien oui, mais moi, tu me laisses l'opportunité de parler de ce que je veux.
T'as bien essayé quand même. T'as bien essayé, je t'attends, mais t'as renoncé, finalement.
J'essaye, évidemment. Marion Bartoli, ta proposition.
Alors moi, je vais vous parler de Max Verstappen, qui a son joujou qui est un peu cassé, Bichette. Alors du coup, il fait la tête et du coup, il est même tellement ronchant qu'il dit, bah si c'est comme ça, moi je vais partir, je vais arrêter la Formule 1. Ouais. Donc je vais vous parler de ça et puis en plus, maintenant, il devient grossier en conférence de presse. Alors là, il y a des dossiers,
Il me fait penser au petit espagnol dans Astérix, qui quand il a pas ce qu'il veut, il arrête de respirer. Ouais. Vous en souvenez dans la bande dessinée?
Bien sûr, évidemment. Le caprice de Max Verstappen qui a menacé de quitter la Formule 1, parce qu'il a reçu une sanction après avoir été grossier en conférence de presse. Jérôme Pinault,
moi je vais vous proposer un débat vélo évidemment pour faire plaisir à Fred Weiss.
Donc je ne voterai pas pour Jérôme Pinault.
En parallèle du championnat du monde à Zurich qui ont lieu en ce moment où on espère aujourd'hui la victoire d'Alaphilippe, il y a aussi eu le congrès UCI avec à sa tête le président Lapartient qui nous a fait encore une fois du grand n'importe quoi. Alors hier on en a parlé un peu mais j'ai envie d'en reparler quand même de cette proposition de groupe de
délation
avec de la récompense si quelqu'un voyait un vélo dans un moteur dans un vélo. Ça réagit beaucoup là-dessus, évidemment. Les gens ont compris qu'il y avait finalement des moteurs dans les vélos.
Cyclisme.
Il y a refonte du calendrier et on va aussi parler de la refonte des catégories des jeunes. Où va l'UCI? Je ne sais pas. Mais ça m'inquiète grandement pour mon sport.
Ça n'a pas l'air super passionnant.
Faut t'arriver à nous garder réveillés, parce que là, j'étais en train de dormir.
Les gens étaient en voix aussi, Marion.
Ulcéré par l'UCI, c'est la proposition de Jérôme Pinault. Et dis donc, vous critiquez pas les débats des petits camarades, hein, parce que moi, je le fais avec le basket.
Oui,
je le fais, c'est vrai.
Alors, c'est un sport pratiqué, ça, le basket?
Oui, très peu.
Pas mal.
C'est le moment de vous inscrire, chers auditeurs.
On lance des citrouilles dans un panier.
Pour tenter de gagner, grâce à Micromania Zing, le jeu eSport FC 25 qui est sorti vendredi et on vous propose la Super Bowl RMC. Avec à l'intérieur la télé, la PS5 et le jeu évidemment. Vous envoyez dès maintenant super par SMS au 732-16, super par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. À partir de maintenant, 10h13, un grand gagnant sera avec nous dans cette émission et on procédera au tirage au sort. Un proverbe chinois pour débuter cette nouvelle heure qui dit la paresse s'entretient par le repos, le courage s'entretient par la fatigue.
RMC, le bras de fer GG.
C'est Antoine Dupont 23-0.
la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack.
Raoult, ça ne s'arrête jamais. C'est pour Ramos. Essai.
T'es mauvais.
Le 9e essai toulousain. En quoi c'est une orgie,
Jack.
Oui.
Quel match à première vue ce soir pour clore la quatrième journée du championnat, le remake de la dernière finale du top 14, Toulouse UBB il y a trois mois, vous l'avez entendu, cette rencontre avait tourné au cauchemar pour les Bordelais, corrigé 59 à 3, l'heure de la revanche a sonné, pensait-on. Oui. Que Nini, en plus de ses joueurs blessés, l'UBB a décidé de mettre des cadres au repos et notamment les trois hommes en forme, Nicolas Deporteur, Damien Penaud, Romain Burros, 9 essais à eux 3 depuis le début de la saison. Une sorte d'impasse pour le choc du top 14, le match phare du dimanche soir. Est-ce une honte pour notre championnat ? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée ce matin par Marion Bartoli, Jérôme Pinault et Fred Weiss, vous l'avez compris, dans le coin droit, la team non, représentée par Christophe Cessieux. Avant de débattre,
c'est comme ça qu'on le préfère.
On va retrouver notre correspondant à Bordeaux, Nicolas Paul Orsi. Salut Nicolas.
Il est dans salut les GG, salut
dans
à
quel
tous.
Camp, Nico, t'as déjà à faire
salut,
Nico.
Je suis avec toi, Christophe, je suis avec toi.
Oh, Nico, fais attention quand même, on peut se croiser un jour.
Les Bordelais, Nicolas, assument.
Sois honnête.
Les Bordelais assument totalement leur choix, Nico.
Ouais, ça c'est une certitude. Alors je vous fais un point sur les absents. Tu l'as dit, JC, Damien Penaud, hein, meilleur marqueur d'essai du top 14, 5 essais en 3 matchs. Nico Deporteur et Romain Burros, ce sont tous des internationaux français. Marco Gazzotti également en 3ème ligne, on en parle moins, mais c'est un des meilleurs joueurs du début de saison du championnat. Tous ces joueurs ont disputé les 3 premiers matchs. Ils ont eu un temps de jeu conséquent qui dépasse les 200 minutes. Ils ont beaucoup enchaîné. Et tu le disais, JC, c'est un choix assumé par le manager Yannick Bru.
Tout le monde a admis que la saison passée, on avait surutilisé pas mal de joueurs cadres, dont ceux que tu as cités. Donc la rotation, elle est intégrée par tout le monde. C'est un sport de combat, de fraîcheur, de vitesse, d'accélération. Et la récupération mentale, est pour moi, est essentielle. On l'a appris à nos départs l'année dernière, donc on va essayer de garder ça.
Bordeaux ne veut pas se tromper de combat. L'objectif, c'est pas ce match contre Toulouse, mais bien de décrocher un titre dans 8 mois. Même si pour les joueurs, affronter le Stade toulousain, ça reste particulier. Mathieu Jalibert, demi d'ouverture, vous allez l'entendre. Il fait pas une fixette sur ce match, mais bon, quand même, Toulouse dans un petit coin de la tête.
C'est un match comme un autre. Le résultat de la semaine prochaine ne changera pas ce qui s'est passé en finale l'année dernière. Je pense qu'en tant que groupe et avec un peu d'ego, on a juste envie de montrer que cette finale, c'était pas nous. Peu importe le résultat de dimanche prochain, on va juste montrer une image plus positive et montrer, je pense, notre vraie valeur.
Côté staff, par contre, tu sens la volonté de ne plus évoquer cette finale qui a été évacuée. Yannick Bru.
J'ai pas envie de me nourrir et de nourrir l'équipe avec des mauvaises raisons et des trucs du passé. On est programmé sur notre avenir, notre futur. Notre avenir proche, c'est un match à Hernès-Vallon où peu d'équipes, pour pas dire aucune, ne s'impose. Je pense qu'on ressortira de ce match avec un état des lieux sérieux de notre feuille de route.
Je termine avec la compo bordelaise quand même parce que il y a du très lourd, hein, sur le terrain, même s'il y a des absents. Lucu Jalibert à la charnière, Moefana en 12, Bielbiaré en 15. Devant, il y a l'international aux 80 sélections avec l'Écosse, Johnny Gray qui est titulaire, Sipili Falatea, le pilier droit de l'équipe de France également. Donc même s'il y a des absents, l'UBB ne va pas à Toulouse pour faire du tourisme.
Merci beaucoup Nicolas, Paul Orsi pour toutes ces précisions. Avec évidemment en conférence de presse les Bordelais. Est-ce une honte pour le top 14 de voir l'UBB qui fait un petit peu l'impasse sur cette rencontre face au Stade Toulousain, oui ou non, le 32-16, évidemment, supporter des deux camps. On vous attend sur RMC. Alors, on vous a posé la question, hein, sur le compte X des grandes gueules du sport. Pour l'instant, il y a une tendance, hein, claire. C'est oui à 59%, non à 41%. Ah, ben voilà. Christophe, voilà. Tu es derrière, toi qui évidemment connais
et vous,
le rugby.
Ça vous choque pas que Antoine Dupont fasse l'impasse sur ce match, ce remake de la dernière finale? Ça vous choque pas, vous?
Je suis ulcéré.
Hein?
Quel bâtard.
Parce que il est en vacances aux États-Unis.
À un moment donné, il faut qu'il revienne.
Il est rencontre LeBron James.
Et Penaud, il n'a pas le droit de prendre des vacances.
C'est ce qu'on appelle allumer un contre-feu. Hein,
et Penaud et Barros, ils n'ont pas le droit de prendre des vacances de temps en temps.
La saison est démarrée.
Ouais, ils ont fait le rugby à 7, eux.
Bah oui, exactement. Elle a fait son rugby à 7.
Le problème, c'est que vous réfléchissez en footballeur que vous êtes, donc un peu bas du front, et vous ne connaissez pas les subtilités du rugby.
Alors, footballeur pour moi, bas du front, c'est un peu dur quand même.
Ou au basket, c'est un peu haut. T'es haut du front. C'est vrai que toi, t'es un peu haut du front, mais t'es un basketteur, c'est pas mieux. Oh là là, ça va. Vous n'arrivez pas à comprendre que ce sport, la façon de faire son championnat diffère de celle du foot, diffère de celle du basket. La saison de basket, de rugby, pardon, je vais y arriver, elle se déroule en deux phases. La première sous la forme d'un championnat et la deuxième sous la forme d'une coupe avec des matchs éliminatoires. Le but du jeu, c'est de terminer dans les six premiers et si possible dans les deux premiers, ce qui te permet d'accéder directement en demi-finale. Mais ensuite, tu peux gérer et le principe, c'est évidemment de gagner tous tes matchs à la maison et ensuite d'aller faire des coups chez des équipes qui sont considérées comme plus faibles. Là, t'envoies la grosse machine pour faire le plein de points et obtenir
t'envoies la grosse machine chez les faibles.
Ouais,
La première excuse avancée pour ça, c'est on veut pas qu'ils se blessent, faut pas qu'ils enchaînent de trop. Tu peux pas te blesser chez les faibles.
Tu peux, bien sûr que tu peux te blesser chez les faibles, mais enfin quand tu prends les monstres toulousains avec un match d'une intensité totale,
il faudra bien
si tu pètes Penaud comme ça à la quatrième journée, c'est pas très bon. Comme par exemple Tulagi, qui est même la star de Perpignan, qui s'est pété hier, double fracture tibia péronée, il en a pour 6 mois. Et donc là t'es bien embêté quand tu pètes ton joueur. Le problème du rugby, c'est que ça casse beaucoup d'hommes. Donc si tu peux de temps en temps les mettre dans la ouate pour les protéger en vue des matchs plus importants en fin de saison, bah c'est comme ça. Le problème, c'est que évidemment quand on est footballeur, on ne comprend pas que si tu as un PSGOM, tu te prives de quatre joueurs. Mais le but du foot, c'est d'avoir le même nombre de points, dépasser l'autre. Donc c'est pas du tout la même façon. En plus, moi je trouve pas que c'est pas une véritable impasse que fait Bordeaux ce soir. Certes, il y a 2-3 joueurs qui
vont pas être là. C'est une bonne demi-impasse quand même.
Eh ben, j'ai pas l'impression.
Ok, t'as pas cette sensation, mais peut-être que les supporters bordelais ont la même sensation.
Je pense qu'on verra ce soir. En plus, il y a un autre truc, c'est le goût de la raclée qu'ils ont pris en finale.
Eh ben, justement,
est-ce que si t'en prends une deuxième avec la grosse équipe,
tu trouves une excuse de te faire écraser ce soir?
À quel moment tu te jauges alors? À quel moment tu te jauges vraiment avec les meilleurs?
Je trouve
que les rugbymen
c'est beaucoup trop tôt, surtout à Toulouse. Tu vas à Toulouse, Toulouse, ils n'ont pas perdu depuis 2 ans et demi.
Est-ce que les séries, c'est pas fait pour être terminées à un moment, et à un moment, tu sais où t'en es au moins?
Ils ne se sentent sans doute pas en état et en mesure de battre le grand Stade Toulousain.
C'est un énorme faiblesse.
C'est un
niveau énorme. Et moi, par rapport aux diffuseurs, aux spectateurs,
le diffuseur et l'arbitre. Tous les ans, il y en a 10 ou 15.
Pas aimé,
et alors, pourquoi t'as pas été choqué par le fait que Vannes, hier, fasse la même chose? N'envoie pas la grosse équipe.
C'est pas l'ancienne finale. C'est pas l'ancienne finale. C'est pas le match que tout le monde attend. C'est pas le match du dimanche soir. C'est pas le match où tout le monde va se retrouver devant la télé. Ça n'a rien à voir.
Mais t'inquiète.
Moi, je suis pas choqué qu'ils fassent l'impasse sur certains matchs. C'est normal. C'est un sport de combat.
C'est normal.
C'est dur. Le rugby est différent des autres sports. Sur certains matchs, je peux l'entendre. Mais pas sur ce match-là.
Mais c'est pas des matchs importants. C'est des matchs de pré-saison. En NBA, tu crois que tous les matchs ont la même importance tout au long de la saison?
Il y en a 82 des matchs.
Et alors, il y en a combien qui sont importants dans la saison?
Tu sais comment c'est important d'être premier en NBA? De recevoir jusqu'au bout.
Mais le problème, c'est qu'en rugby, t'es obligé d'être dans les 6 premiers.
D'accord. Mais dans les 2 premiers, c'est plus important qu'être dans les 6.
Surtout pour Yannick Bru. Rappelez-vous ce qu'il a dit l'année dernière, quand même, à la finale. Il a dit on est passé par les barrages, ça nous a fatigués. On aimerait bien ne pas passer par les barrages la prochaine fois, parce que battre Toulouse en passant par les barrages, en ayant plus de matchs, c'est impossible. Donc, c'est un peu contradictoire ce que tu es en train de dire. Lui, il veut être dans les 2 premiers pour éviter les barrages, pour arriver en forme sur la finale.
Mais personne ne va aller gagner à Toulouse.
Sans compter que
ne faisons pas le championnat. Toulouse, merci beaucoup. Vous êtes champion.
Malheureusement, je pense que ça pourrait être un débat, mais je pense que la domination outrancière du Stade Toulousain
sur le rugby français, les yeux dans les yeux de ton adversaire.
On ne sait pas qui c'est parce qu'on ne le verra pas. Ouais, on verra pas. Si il y a quoi comme équipe capable de challenger cette équipe?
Tu le verras en finale. Tu le verras peut-être dans les phases finales de la Coupe d'Europe et dans les phases finales du top 14. C'est comme ça. Les matchs importants, c'est la fin de la saison en rugby. Avant, ça compte pour du
Moi, je trouve que le diffuseur va être très content d'apprendre que ces matchs ne comptent pas beaucoup, alors que faisait une joie quand même de voir ce match.
Jérôme, tu voulais prendre la main. Moi qui suis un bas du front, comme tu dis, moi, je suis pas un grand spécialiste rugby. Il faut pas juste penser que ce sport est que pour vous, les spécialistes, en fait. Depuis le changement des droits du football, il y a beaucoup de gens qui, le dimanche soir, dont je fais partie, vont aller voir un beau match de rugby que je faisais pas avant. Moi ce soir, on me vend le plat. Le premier enfin le remake, la revanche de la finale. Et si je vois encore une fois le Stade Toulousain qui domine une équipe qui n'est pas venue avec ses meilleurs joueurs, je vais pas le regarder le prochain match. Je vais pas regarder.
Non mais je suis d'accord avec toi, c'est une mauvaise pub.
Il faut pas penser que l'on s'adresse uniquement à des gens qui connaissent tout le sport. Moi, je le connais pas assez. Évidemment que je sais qu'il faut faire tourner, etc. Mais un grand match comme celui-là, et la preuve, un mec comme Jalibert dit, c'est un match particulier. Tu sens qu'il va pas jouer pour. Mais il aurait bien aimé y aller au casse-pipe face à ces gens-là. La deuxième des choses, c'est.
Mais je comprends qu'on soit frustré. Attention, mais moi aussi, je suis frustré, Jérôme.
Ouais.
Mais c'est le système qui est comme ça. Il faut à ce moment-là changer de système.
Il faut changer de système.
Et faire un vrai championnat comme en foot. Le problème, c'est que t'auras plus de phase finale. Et l'essence du rugby en France, c'est les phases finales, c'est les demi-finales, c'est monter à Paris pour la finale. Donc, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire un championnat passionnant tout au long de la saison, mais qui à la fin n'a plus aucun intérêt.
Je suis d'accord avec toi.
Il faut faire des choix.
Mais
pas tout avoir.
Je trouve qu'on ne peut pas toujours se cacher derrière le côté saison régulière et phase finale. Oui, c'est un argument, tu as raison. Mais à un moment donné, même pour les Bordelais, j'imagine que Nicolas Deporter, j'imagine que Damien Penaud, ils avaient envie de le jouer ce match. Ils avaient envie de retrouver Toulouse, même si c'était difficile de gagner. Enfin, j'imagine. Marion, vas-y, tu n'as pas encore parlé.
Non, moi je suis exactement alignée avec Fred et Jérôme. Pour moi, en fait, c'est vraiment une très mauvaise publicité pour le rugby. On se faisait tous une joie de voir le remake de cette finale. Alors bien sûr que cette finale avait été un chat, exactement. Il y avait eu aucun match, ils se sont fait fracasser. Mais avec les débuts de l'UBB depuis le début de cette saison, ils ont quand même fait, ils ont la meilleure attaque du top 14. Ils ont marqué 124 points en 3 matchs. Ils avaient des stats absolument hallucinantes. Les 4 meilleurs marqueurs d'essai du top 14, 3 sont Girondins. On se disait, tiens, c'est alléchant. On a envie de voir si effectivement Toulouse a Antoine Dupont. Même si Toulouse, bien sûr, est une machine à gagner. Même si tu l'as dit, effectivement, Christophe, ils ont plus perdu depuis extrêmement longtemps chez eux. On avait envie de voir ces remakes. Et même si éventuellement l'UBB s'inclinait, mais d'un peu moins de points, peut-être que de 7 points, peut-être que de 10 points, peut-être qu'il les accrochait nettement plus. C'est ça qui nous faisait saliver, en fait. Et là, le problème, c'est que t'enlèves tout ça. Alors, peut-être qu'ils finiront à la fin par effectivement prendre une autre doudoune et que finalement de se dire, de prendre 59 à 3 ou de prendre, n'importe quoi, 65 à 6, ça change rien. Mais nous, pour les téléspectateurs, en fait, on est extrêmement frustrés parce que c'est ces gros matchs aussi qui vont faire l'audience, qui vont permettre d'avoir un fil continue comme ça de match.
Et faire plaisir aux diffuseurs
d'investissement
qui soit rentabilisé à un moment, parce que c'est chaud quand même.
Ce fil là conducteur, tu le perds dans la saison si c'est gros match ou c'est gros clash. T'assures pas d'avoir les deux meilleurs effectifs des deux équipes. C'est le numéro 1 contre le numéro 2 en plus actuellement en termes de points au niveau du classement du top 14. Et en plus c'est un UBB qui est extrêmement en forme, donc toi tu t'attends, enfin moi je m'attendais à dire, on a fait le débat pendant la semaine avec Denis et Vincent, on s'attendait tous à se dire tiens, on était en train de comparer poste pour poste, est-ce que ça va marcher, est-ce que ce qu'ils ont mis en place en attaque l'UBB depuis le début de la saison, ça va marcher contre Toulouse qui est capable de les contrer, pas les contrer, et tu commences en à faire de, le match, à t'imaginer là en fait t'enlèves tout.
Et en plus de ça, t'as la série de Toulouse, Marion, qui t'as envie de voir Toulouse mais perdre à la maison.
Bien sûr.
Donc tu te dis, qui peut les battre? L'UBB, ils arrivent avec une équipe pas la meilleure. Alors, okay, j'ai lu.
Il y avait la Rochelle qui aurait pu les battre, mais ils se sont fait taper.
Ça fait un peu refus d'obstacle.
Ça fait un peu ça. Ouais, ça fait un peu, ça. Je ne vais pas t'affronter tout de suite. On va attendre un peu si en fin de saison je peux t'en mettre une petite en loose day.
Ça fait peur surtout. Ça veut dire que je n'ai même pas confiance en mon effectif.
Ça fait un peu très
bête. Les Bordelais ont peur des Toulousains, si tu dis ça.
Justement, on va accueillir un supporter dans quelques instants. Il faut rappeler le calendrier de l'UBB. Après, il y aura deux matchs à domicile, Bayonne et Perpignan. Et on comprend, pour eux, il faut faire le max de points à ce moment-là. Mais en tant qu'amoureux de sport, on avait envie d'avoir une affiche au complet ce soir. Et quand j'entends Yannick Bru, pardon, en conférence de presse, quand on lui dit ce qu'il attend de ce match et qu'il répond, j'ai entendu la conférence de presse, hein, voici ce qu'il dit, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, j'attends un nez comme ça, après ce match, on aura un état des lieux sérieux de notre feuille de route. Voilà. Ça veut rien dire, on veut taper le Stade Toulousain, ça veut dire quelque chose. Benjamin nous appelle au 32-16, bonjour Benjamin.
Bonjour les grandes gueules.
Supporter de l'UBB.
De m'accueillir.
Eh ben voilà, on a envie d'entendre ton son de cloche. Est-ce que toi aussi t'es un peu déçu ce soir de pas avoir la grosse équipe ou non, ça va?
Non, en fait je pense qu'il faut réfléchir soit en termes de médiatisation du top 14 et d'exposition pour le grand public, soit à l'intérêt sportif des clubs. Et l'UBB ce soir a peu d'intérêt finalement à aller mettre la grosse équipe à Toulouse, parce que d'une part il y a très peu de chances de gagner. Toulouse perd un match à domicile tous les deux ans.
Ah ben en jouant comme
en
ça
plus
c'est
de
sûr.
Cela, non mais en plus de ça, on peut aussi avoir des blessés, hein, je ne sais pas, Jalibert, Penaud, enfin voilà.
Non, mais on le plus simple, c'est que vous disiez que personne ne va jouer à Toulouse. Ils ont gagné tous leurs matchs à domicile et après, on essaie de jouer.
Tout le monde le fait, tout le monde le fait.
Mais c'est une tristesse absolue.
Oui, mais ça, c'est à cause du fonctionnement avec un top 6 à la fin et des quarts de finale et des demi-finales. Si on veut éviter cela, en football, en Ligue 1, on n'aurait jamais ça à cause d'un championnat qui permet juste de gagner, de perdre sans phase finale. Donc le système... De toute façon, l'année dernière, Toulouse contre Bordeaux, Toulouse a mis 60 points à Bordeaux. Pourquoi ? Parce que Toulouse s'était reposé sur les 6 dernières semaines. Parce que Toulouse était déjà sûr d'aller 2-3 premiers parce qu'elle avait fait tourner et était en capacité
d'arriver à trimballer.
Mais oui, voilà. Mais donc, Bordeaux, ils ont gagné plusieurs matchs. Ils vont avoir les deux prochains matchs. Ils vont les gagner, normalement, hein, vu le calendrier. Donc, finalement, ce match-là, si on fait l'impasse, Toulouse fera l'impasse certainement à Bordeaux. Et puis, tout le monde sera content. Et tout le monde sera dans les 3-4 premiers.
Le vrai match qui va compter dans ce championnat est en phase de
vas-y, je prends le calendrier.
C'est le match entre La Rochelle et l'UBB. Parce que là, c'est sans doute la place de deuxième derrière Toulouse qui va jouer pour la. Je sais pas, j'ai pas regardé le calendrier.
4, pardon.
C'est dans 4 matchs.
Ok, bah c'est pas calendrier. Là, on pourra regarder.
Je pense qu'il y aura peut-être pas d'impasse faite par les.
Ouais, on espère.
Les Rochelais n'ont pas fait l'impasse face à Toulouse il y a 15 jours.
Hein. Exactement.
Ils y sont allés, ils les ont inquiétés, ils ont mené au score face à Toulouse avant de perdre finalement.
C'est ça qui fait du lien au championnat. Non, on relance pas le débat, les copains, c'est terminé. On remercie Benjamin d'avoir été avec nous. Sachez que Christophe Cessieu, qui s'est bien défendu, a gagné un point.
Voilà.
58-42. 58 tout de même, c'était une honte et c'est une honte pour le top 14 ce soir. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. La punchline qui concerne l'Olympique de Marseille, cette polémique autour de l'arbitre cette semaine. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieu, Marion Bartoli, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Dans moins de 10 minutes maintenant, les GG contre-attaque. Et ça va être un match entre Christophe Cessieu et Marion Bartoli. Un match entre Alaphilippe et Max Verstappen. Vous pouvez encore voter, c'est extrêmement serré. Évidemment, Jérôme Pinault et Fred Weiss, merci d'avoir joué. Mais je pense que vous partez trop loin, les copains, avec vos débats.
Et tout ça, c'est ta faute, hein, t'as sabordé mon débat à peine
énoncé. Et moi, c'est toi qui me l'as sabordé.
Voilà, oui, mais moi, c'est avec fierté que je l'ai fait.
Bravo, les copains. Ça se passera dans une dizaine de minutes. Et évidemment, restez bien évidemment avec nous.
La seule chose, c'est que je suis pas surpris. Il y a faute de la casette au départ, deux fautes de maladie, tu les cartes. Et tu vas chez le climatique. Commence à nous respecter. Commence à nous respecter.
A commencer à nous respecter, c'était l'une des phrases du week-end dernier. C'est ce qu'on appelle rester groupir. Une semaine après la sortie polémique de Mehdi Benassia sur l'arbitrage de Lyon-Marseille, l'OM fait corps autour de son conseiller sportif. Vendredi en conférence de presse, avant la rencontre de ce soir à Strasbourg, Roberto De Zerbi est monté au créneau pour défendre Mehdi Benassia, convoqué par la commission de discipline de la LFP. L'Union fait la force, c'est la punchline des GG. Roberto De Zerbi.
RMC, la punchline GG.
Mehdi Benassia est un directeur sportif.
Mehdi Benassia, c'est un directeur sportif de très haut niveau, le meilleur que j'ai eu dans ma carrière. Je suis très triste qu'il soit entré dans les polémiques. Évidemment, il n'a pas besoin de moi pour être défendu. Il a dit des choses de manière polie, en faisant valoir nos droits et notre opinion. Je ne pense pas qu'il ait dit quoi que ce soit de mal. Je dois le remercier, car si je suis ici, c'est grâce à lui, grâce à Pablo Longoria. Donc je serai toujours à ses côtés, surtout quand il est accablé par des polémiques sans aucun sens.
Sans aucun sens. Alors cette séquence sur l'arbitrage, est-ce que ça va servir ou desservir l'OM ? On vous attend là-dessus les GG. Christophe Cessieu.
Je pense que ça va les servir.
Plutôt servir. Fred Weiss.
Plutôt desservir.
Plutôt desservir. Marion Bartoli.
Servir.
Jérôme Pinault.
Desservir.
Desservir. J'ai donc deux desservir. J'ai donc deux servir. Non, je t'ai plus. C'est encore un débat dans cette émission qui va nous prendre au moins une heure. Vous avez préparé les copies doubles, les copains. Desservir. Jérôme Pinault, toi, le supporter de l'OM.
Mais oui, ça va desservir parce que l'OM n'a pas besoin de ça. Et surtout, il a dépassé la limite, en fait. Il faut accepter que quand tu pètes un plomb et que tu sors des lignes, des limites comme ça, en parlant ainsi à l'arbitrage, qui doit être protégé de toute façon. Bah, tu ne protèges pas ton club en faisant ça. Et derrière, il faut juste se dire, bon, j'ai déconné, mais à coup de pas, je vais prendre une sanction, et basta, on passe à autre chose. L'OM n'a pas besoin de ça. On sait très bien que ce club, la moindre étincelle, ça peut faire partir. Et il y a une grande partie des médias et de la population qui aimerait que ça parte un peu en torche à Marseille, parce que ça va trop bien pour l'instant. Donc ça ne peut que desservir, d'autant plus qu'on est en train de mettre en place dans le football des choses, et notamment autour de l'arbitrage, pour que tout cela s'apaise, pour que tout cela devienne plus juste, qu'on parle moins de l'arbitrage finalement. Et ça vient des dirigeants. ça commence par les dirigeants. Et là, alors que De Zerbi dise Benatia, je suis avec lui, évidemment, c'est lui qui l'a embauché, il va pas dire non, je suis contre ce qu'il a fait. Ça c'était impossible. En revanche, ce qu'a fait Mehdi Benatia, aujourd'hui, pour moi, est sanctionnable et doit être sanctionné pour donner l'exemple. Et pour son club, c'est le porteur de l'unité d'un club, c'est le porteur des valeurs d'un club, c'est le porteur d'un projet club.
Oui, ça, on revient sur ce qui s'est passé, est-ce qu'il avait besoin ou droit de le faire. Bref, ce sera la commission de discipline de juger. Là, notre débat, c'est de savoir si de dire vous ne nous prenez pas au sérieux, vous ne respectez pas les arbitres, est-ce que là, il y a un petit changement qui pourrait aussi s'opérer.
Bah, évidemment que ça va desservir. C'était la conclusion de ce que je voulais te dire, c'est qu'à un moment donné, les arbitres, ils l'ont en tête aussi, ça. Et le prochain match à Marseille, ça ne peut que mettre le feu aux poudres et il n'y a pas besoin de ça à Marseille.
Ok, Christophe.
Tu penses qu'un arbitre, quand il va avoir à juger d'une faute ou non de Marseille, s'il n'est pas tout à fait sûr de lui, il ne va pas plutôt essayer d'être clément en se disant « Ouh là là, je vais encore prendre la marée ».
Non, je pense que c'est le contraire.
Et les arbitres sont des gens professionnels, ils sont neutres.
Ils vont dire,
ils font bien leur métier.
Sinon, ils vont croire que si on gueule après nous, on change d'avis, on n'est plus clément avec eux. Donc au contraire, ils vont se dire en faisant bloc, en faisant unité,
on va les écraser encore.
Mais pas du tout. Mais dans le doute,
je sais pas.
Tu sais que c'est des êtres humains, les arbitres. Ouais, et dans le doute, ils vont préférer.
Je pense qu'il y en aura qui seront plus cléments et d'autres qui seront peut-être plus sévères. Mais c'est peut-être pas là-dessus que ça va avoir des conséquences. Non, moi, je pense qu'avec ce qu'ont fait les dirigeants marseillais, ils se sont positionnés. Marseille contre le reste du monde. Oui, regardez, nous sommes un club rebelle. Tout le monde veut nous abattre depuis la nuit des temps. Tout le monde est anti-Marseille, anti-LOM. Rappelez-vous de ce qui se passait à l'époque Tapie. On a voulu nous assassiner. On a voulu nous faire disparaître et nous sommes toujours là. Eh bien, c'est la même essence. C'est le même genre de philosophie.
Donc, ils vont se servir à l'intérieur.
Donc, ça va nous desservir. Oui,
à l'intérieur, ça va être intéressant, Christophe, mais pas à l'extérieur.
Tu regroupes, tu fédères tout ton club, tous les Marseillais, tous les gens du Sud qui se sentent un peu opprimés par Paris, la capitale, les dirigeants, ceux qui sont...
Mais l'OM n'a pas besoin d'aller chercher des fans à l'extérieur en disant...
L'OM a toujours...
Ce qui ça peut desservir... Pour moi, le débat, c'est ça peut desservir sur le terrain vis-à-vis de l'arbitrage, vis-à-vis des instances fédérales et de la Ligue.
Olas a eu cette posture pendant des années en disant, regardez, l'arbitrage, c'est un scandale. Et tu crois que ça a eu des conséquences désastreuses pour l'OL? Tu crois qu'on a fait disparaître M. Olas parce qu'il a osé critiquer l'arbitrage?
Bien sûr que non,
ça n'a eu aucune conséquence pour l'OL.
Bah justement, Marion Bartoli, t'es d'accord avec Christophe, t'es sur le même point de vue, va servir.
Je suis complètement d'accord avec Christophe. Éric Roy, Luis Campos, Jean-Michel Aulas, le président de Rivière de Nice l'ont fait pendant des années et au contraire, ça sert leur club. Pour moi aujourd'hui, Mehdi Benatia, alors je sais pas si on dit Benatia, Benatia, parce qu'il y a plein de prononciations, on va partir sur Benatia. Pour moi aujourd'hui, il fait ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a une pression bien évidemment énorme sur les épaules. L'année dernière, l'OM s'est complètement planté sur sa saison, il le sait. Donc il joue sa tête, son poste. On sait très bien qu'à l'OM, c'est pas un club comme les autres et tu l'as dit Jérôme, et là je suis complètement alignée avec toi, tout peut prendre feu à n'importe quel moment. Donc qui resserre les rangs autour de lui, qui montre qu'il envoie un signe très fort à son équipe, à ses joueurs en disant mais moi je vais monter au créneau pour vous, quand je considère qu'il y a une injustice, je vais y aller, même si pour moi la forme n'est pas bonne, le fond, on a tous revu les images, on voit très bien que sur le deuxième carton jaune,
on voit très bien que l'arbitre a sa décision.
Donc pour moi sur la forme, effectivement, c'était pas forcément la meilleure forme possible. Sur le fond, il a raison, et on sait très bien que sur des joueurs qui sont à l'OM, au plus ils sentent leurs dirigeants qui sont avec eux, pour eux, dans le même bateau, qui vont mouiller le maillot pour eux, qui vont se déchirer pour eux, au plus ces joueurs vont faire exactement la même chose sur le terrain. En aucun cas ça va desservir l'OM,
parce que de toute façon ça va resserrer les rangs, tout ce que tu vas gagner en interne, mais ça va desservir. Quatre sociétés françaises qui l'ont fait pendant des années.
Quand
tu pointes du doigt un arbitre, c'est toute une confrérie que tu attaques. Et donc, ils vont tous se ressouder les uns avec les autres.
On sait très bien que l'arbitrage en Ligue 1 est mauvais. Tout le monde le sait. On sait très bien que l'arbitrage en Ligue 1 est mauvais.
C'est pas en partant de ce principe-là qu'on va gagner quelque chose.
Mais il y a des choses qui
qui sont mises en place.
Ça ne va pas desservir l'OM.
Pour le respect de l'arbitrage,
ça ne va pas desservir l'OM. Je suis désolée, ça ne va pas les desservir.
Ça va les desservir, évidemment, les arbitres.
Ça a été fait par des dirigeants pendant des années. Et au contraire, ça a servi les clubs.
Pas tous les deux en même temps, sinon on ne comprend plus.
Les arbitres ne vont pas montrer qu'ils sont faibles. Justement, ils vont, dans le doute, je suis persuadé qu'ils prendront une décision contre Marseille. Pourquoi ? Parce qu'ils se diront qu'on ne veut pas montrer qu'on est faible.
Sinon, il a gagné.
Ils vont dans le doute. Les arbitres sont comme ça. C'est une confrérie particulière. C'est un métier difficile. Et ils sont obligés de se serrer les coudes. Sinon, ça veut dire que tu tolères ça à chaque fois. Et ce n'est pas normal. Tu n'as pas le droit de tolérer ça.
Ok, réponse de Marion.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Sur le fond, que la forme n'ait pas été bonne, je suis d'accord avec vous, qu'il y ait certainement une sanction, je pense qu'il y en aura une. Le fond, il avait raison.
Et je pense,
et je suis d'accord avec Christophe, qu'il y en a certains pour qui, effectivement, ils vont dire, bah, tu sais quoi, on va être, entre guillemets, encore plus agressif sur les cartons, sur les fautes, mais comme l'a dit Christophe aussi, il y a d'autres arbitres qui vont aussi, entre guillemets, se dire, bah, là, la prochaine fois, je vais quand même faire un peu plus attention. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord, ça ne va pas les desservir. Et au contraire, quand tu es capable de resserrer les liens au sein du club et que tu n'es pas du coup d'avoir tes joueurs qui vont aller sur le terrain et mourir pour toi parce qu'ils ont vu ce que tu es capable de faire pour eux, ça va servir.
On en parle au prochain carton rouge.
Eh bien, début de réponse ce soir, j'ai envie de vous dire. 20h45, Strasbourg-Marseille, c'est la grande soirée sur RMC autour de Jean-Louis Tour à partir de 20h. Au commentaire, Jeannot Séguier, évidemment, la voix du foot sur RMC, sera là pour commenter ce Strasbourg-OM. Donc à partir de 20h, coup d'envoi 20h.
On va avoir la petite laine quand même
45.
À la
méno. Oh, il va faire ça. Hein, bah, on est en automne, monsieur. Hein.
Et puis allez, on est en automne toute l'année.
Et surtout, il n'y a plus de saison. Alors, on se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Qui a gagné, Christophe ou Marion? Qui a gagné, Verstappen ou Alaphilippe? A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 11h, nous vous parlons des mondiaux de cyclisme avec notre équipe de France, Thomas Vauclair, le grand gourou, le sélectionneur. Est-ce qu'il est devenu plus important que ses coureurs? Ce sera notre question et les GG ne sont pas d'accord. Les GG, justement, Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Fred Weiss. Tout de suite, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC. Les GG contre-attaque.
Quatre propositions de débat ce matin. Vous avez pu voter, chers auditeurs, pour votre débat préféré. À la dernière place, les retraités de notre équipe de France de basket, notamment Nando De Colo, 18%. Ah,
c'est carton.
Bravo, Basket Base. Ouais. Bravo, quatrième.
On n'aime pas les vieux dans cette émission.
Bravo.
On aime pas Christophe, mais on n'aime pas les vieux.
On adore Christophe. C'est une niche, le basket. C'est une niche.
Grosse niche, quoi.
Attendez, troisième place, 23% pour l'UCI qui fait n'importe quoi. Bravo Jérôme Pinault.
Mais c'est l'UCI, c'est le politique. Ils ont raison, les gens, ils voulaient écouter Alaphilippe.
Non, mais non, c'est même pas moi qui ai gagné.
On a fait deux vélos, deux, c'est trop.
Non, parce que les Français n'aiment pas leurs champions. Ils préfèrent cracher sur les champions adverses. Qu'est-ce que vous voulez?
29%.
Les Français n'aiment pas leurs champions.
Pour Julien Alaphilippe. Christophe Cessieux s'est bien battu. Et il a été un cheveu de gagner avec Julien Alaphilippe. Mais la victoire revient
à moi.
30%, oui, c'est dire. À 30%, Max Verstappen. Le caprice de Max. Marion, rappelle-nous la situation de Max Verstappen qui a menacé de quitter la Formule 1 cette semaine. Et ensuite, évidemment, ce sera au GG de débattre.
Alors, comme le disait Christophe, Max Verstappen s'est transformé en Pépé. Vous vous rappelez de Pépé dans Astérix en Hispanie, le fils de Soupalognon et Crouton, qui a arrêté de respirer que des tout rouge et qui n'était pas content? Et ben Max Verstappen, il s'est un petit peu fâché comme ça. Alors, le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Le problème, c'est que sa voiture est beaucoup moins performante, qu'il est en train de beaucoup moins écraser la concurrence, que ça fait 8 Grands Prix qu'il ne gagne plus, et que ça, c'est difficile pour lui d'arriver à l'accepter. Donc, il a déclaré en conférence de presse, je cite, ouvrez les guillemets, la voiture était à chier. Et donc ça, la F1 a dit, ah là, c'est pas possible, on peut pas insulter, on peut pas dire des gros mots comme ça en conférence de presse. Donc, Max Verstappen va être sanctionné de certain nombre d'heures de travail d'intérêt généraux. Alors, on sait pas ce qu'il va faire, ça va être quand même assez intéressant. Et donc, Verstappen a fait son petit caprice en disant, ben moi, si c'est comme ça, eh ben je m'en vais, je vais plus courir pour la F1, je vais plus piloter, parce que vous avez dit que j'avais pas le droit de faire quelque chose, et comme en plus, je gagne un peu moins, et que du coup, c'est un peu moins fun, parce que je suis pas tout le temps en train d'écraser et la concurrence et en gagnant les grands prix d'à peu près une minute d'écart, et ben moi je vais me barrer. Donc ça m'a fait quand même beaucoup rire, mais ça fait aussi assez rire Lando Norris qui s'exprimait là-dessus en disant quand même que c'est juste parce qu'il gagnait plus qu'il faisait peut-être un petit caprice, mais qu'il n'allait quand même pas se barrer de la F1. Donc de voir de Max Verstappen un tout petit peu plus en difficulté, alors que ça fait des mois et des années que dans les GG on faisait des débats chaque semaine en disant mais la F1 ça devient tellement ennuyeux, c'est tout le temps Verstappen qui gagne, que ça m'a fait beaucoup rire. Voilà.
Ok, le caprice de Verstappen. Alors voici ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Bien sûr, ce genre de chose est en mesure de décider définitivement de mon avenir. Lorsque l'on ne peut pas être soi-même, il faut faire face à ce genre de choses stupides. Je suis à un stade de ma carrière où je ne veux pas être confronté à ce genre de choses en permanence. C'est vraiment fatigant. La F1 continuera sans moi. Est-ce que pour vous, les GG, c'est ce que vous dit Marion, est-ce que pour vous, c'est un caprice? Caprice ou pas de Max Verstappen, Jérôme Pinault?
Oui, c'est un total caprice. C'est,
oui, caprice,
c'est un petit garçon vexé.
Fred Weiss.
Je ne suis pas sûr.
Pas sûr. Christophe Cessieux.
Oui, c'est un caprice.
Caprice aussi. Ah bah tiens, on va aller voir Fred Weiss. Pourquoi pas sûr?
Je ne suis pas sûr parce que parfois, t'en as marre. Parfois, t'en as marre de ce qui se passe autour de toi. Alors oui, effectivement, le fait qu'il gagne moins, qu'il soit moins dominant, évidemment, c'est un élément déclencheur. Mais peut-être qu'il en a marre, tout simplement, de ce qui se passe aussi. Si tu ne peux pas dire ce que tu veux, si tu ne peux pas être toi-même. Un moment quand
tu peux dire que la voiture était mauvaise, mais tu es obligé de la dire que la voiture était chier.
Mais c'est pas très grave. On a tous des abus de langage parfois, et c'est pas super grave.
Il assume. Oui, bah, il assume d'avoir fait comme une faute, et puis il prend sa suspension et puis continue à piloter.
Dire la voiture est à chier est une faute. Moi, je trouve ça un peu grave quand même. C'est pas non plus si important que ça. Alors oui, c'est pas une belle expression. Oui, c'est pas joli. Sauf qu'on l'a tous dit dans notre vie, donc parfois ça peut t'échapper. Parfois dans
l'énervement, tu peux le dire. T'assumes ta bêtise, tu dis bah voilà, je l'ai dit à chaud.
Un grand mot quand même.
Ça va, c'est pas parce qu'il va faire une heure de travail d'intérêt général ou qu'il va avoir une micro-sanction que ça va lui remettre en question sa carrière.
Mais en fait, peut-être qu'il en a marre de cet univers.
Bah, il en a juste marre de moins gagner qu'auparavant.
Mais certainement que c'est un élément déclencheur. Oui,
qu'ils le disent plutôt que de dire mais j'en ai marre qu'on me dise pas et qu'on me laisse pas être moi-même.
Il y a certainement de ça, mais il n'y a pas que de ça. Moi aussi, ça m'énerve de ne pas pouvoir dire exactement ce que je veux.
Ça reste néanmoins une saison. Il est encore en tête cette saison, il va être champion du monde et depuis quelques temps il ne gagne pas. Fred, tu peux pas nous dire que c'est pas un caprice lorsque le mec il gagne un peu moins, il l'ouvre un peu plus. On sait le caractère.
Mais il ouvre un peu plus parce qu'il est l'ancien champion du monde quand même. Il va être
champion du monde
encore une fois, donc il a un peu du poids. Il a quand même le droit de parler.
Ça m'a pas choqué qu'ils disent que la voiture était à chier. En revanche, le fait qu'ils disent ouais, mais moi, si c'est ça, je vais arrêter.
Mais c'est certainement une façon de parler. C'est pour dire que pour exprimer son agacement.
Tu peux pas dire ça. T'as des engagements derrière, t'as des sponsors.
Mais ça aussi, c'est une façon de parler. On ne va pas juger les gens parce qu'ils ont une façon de parler. Il a pas dit je m'arrête. Il m'a dit.
Quand on reprend l'interview, c'est un peu ça.
La F1 fera sans moi,
une façon de parler. Il a pas annoncé je m'arrête et je ne cours plus.
Oui, mais il laisse planer des doutes.
C'est quand même une manière de mettre la pression.
Ça. Vous prenez ça au sérieux ou pas?
Il n'y a pas du tout. Non, pas du tout. Il ne s'arrêtera pas de rouler en F1.
Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a 26 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part la Formule 1? C'est quand même le nirvana en termes de sport automobile. Ce mec, il est programmé depuis qu'il est petit pour gagner tout. Il ne va pas aller faire des championnats de voitures de série quand même. Quand t'es pilote automobile, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la Formule 1 et tout gagner et battre les records et égaler et un jour taper Hamilton qui est son plus grand rival.
Jamais de la vie, c'est un gamin quand même.
Il a que 26 ans.
Christophe, quand on aura Hamilton dans Bartoli Time, je ressortirai ta bande son à Lewis Hamilton.
Mais je peux te dire que Verstappen va challenger Hamilton et il veut être le plus grand de tous. Donc il va pas arrêter comme ça parce qu'il s'est fait taper sur les doigts comme un vilain petit garçon. Alors ça l'énerve évidemment parce qu'il a l'orgueil du champion, il est vexé mais pas une seconde, il va arrêter la Formule 1.
Tout le monde le sait, Christophe, mais par contre, cet agacement, cet énervement. Moi, ça me choque pas.
Moi aussi, quand j'y s'énerve, je dis je vais quitter les grandes gueules du sport, j'en ai marre de faire autre chose. Et je reviens tout le temps, comme ça, en demandant à JC, reprends-moi, s'il te plaît. Non, vous voulez pas dire ça.
En fait, à chaque fois, je me suis dit est-ce que je prends cette menace au sérieux? Et puis rapidement, je me suis dit non, je ne prends pas.
Comme celle de Verstappen. Non, mais en plus, et comme Christophe Cessieux, Max Verstappen a des millions de fans. Des gens qui le regardent et qui ne vivent que par lui. Et moi, pour être. Je suis ça de loin, mais j'ai mon filleul Léo qui fait du kart qui veut être Max Verstappen. Ouais. Quel message t'envoies au gamin quand tu dis ça? Et moi, je gagne plus. Je me casse.
Je barre.
Tu peux pas faire ça.
C'est hyper réducteur. Ce que tu es en train de dire, c'est hyper réducteur et en même temps, c'est un
sommet.
Il y en a un
qui s'est cassé comme ça au sommet, alors qu'il avait battu justement Hamilton. C'est Rosberg, qui a été champion du monde une fois et qui a décidé de se retirer parce qu'il y avait une telle pression au sein de l'équipe. Ils étaient coéquipiers tous les deux, mais enfin, ils étaient plus rivaux coéquipiers. Et le mec, il a plus supporté la pression. Mais c'est pas le cas de Verstappen.
Non, mais là, c'est un vrai message envoyé pour dire
la bouffe.
Moi, je suis la star. Faut m'aider, là, faut me remettre dans les bonnes conditions.
Donc ça te surprend de voir un athlète de très haut niveau avoir un ego surdimensionné.
Non, mais de dire je vais arrêter.
De dire comme ça, et de non, l'afficher aussi.
C'est vrai que c'est très, très rare.
Tu peux avoir de l'ego sans dire je vais quitter si
sans
ça
sans dire je vais arrêter. Exactement, parce que je n'ai pas
l'ego. Encore une fois.
Là, au contraire, c'est petit caractère.
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le nouveau patron de la FIA a resserré la vis depuis qu'il a pris les rênes, qu'il embête un petit peu les pilotes. Vous vous souvenez de cette histoire avec Lewis Hamilton qui voulait porter ses chaînes et tout ça. Il a dû les enlever, sinon il allait avoir une amende. Et je pense qu'il y a plus de la rébellion du côté de Max Verstappen en se disant oh les pilotes, on est derrière moi. Et on ne va pas se laisser dicter nos choses par le patron de la FIA.
Qu'ils fassent des choses ensemble, ça serait plus logique. Mais qu'ils
réagissent. Mais tu peux dire ça sans dire que tu vas arrêter la Formule 1 quand même.
S'exprime, c'est pas non plus
illogique. Mais c'est pas exprimé au nom des collègues là.
Il s'est exprimé. En son nom de coureur.
En son nom, en disant je vais arrêter.
Bon, et peut-être qu'il montre les muscles. Il a déclaré aussi, et j'en terminerai par là, je ne sais pas à quel point ils prendront ce genre de choses au sérieux, mais pour moi, à un moment donné, ça suffit. La Formule 1 continuera sans moi, ce n'est pas un problème, et ce n'est pas non plus un problème pour moi. C'est comme ça. Fin de citation. Voilà ce qu'a déclaré Max Verstappen.
Il a dit qu'il se barrait.
Bravo Mario pour cette victoire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Nous allons parler des mondiaux de cyclisme qui se disputent
actuellement. Mais non, ça intéresse personne.
À Zurich. Pourquoi tu torpilles comme ça
du vrai sport, un vrai sport.
Mais non, mais ouais, on l'a bien compris. Bah
si ça intéresse personne,
en fait. Les Français ne veulent pas d'Alaphilippe, ne veulent pas de parler de vélo.
Mais bien sûr que si, Thomas Vauclair.
Ah, il est vexé. Ça y est, il fait son pépé. Ça y est, il fait son pépé.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler des mondiaux avec notre envoyé spécial parce que ça a débuté. Il y a quelques minutes, hein, c'était le départ à Zurich, donc de ces mondiaux de cyclisme. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.